Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et on est en 2024 et nous continuons toutes les semaines nos émissions et nos débats auxquels vous êtes plus que jamais conviés. Donc si vous le souhaitez, ça peut être une de vos bonnes résolutions pour donner enfin un peu de sens à ce concept. Rien de plus simple, hein, vous me contactez via les réseaux de Transistor ou bien directement, louis.rubellan à l'adresse habituelle, @nest-lyon. Chacun, chacune est un ou une critique en puissance, donc il ne vous reste plus qu'à l'actualiser. Pas besoin d'avoir vu tous les films du monde, seulement celui de la semaine, ni d'apporter avec vous toute la somme de la critique cinématographique de la Terre, seulement votre sensibilité et vos goûts. Donc on vous attend tous les lundis soirs au studio. Studio où d'ailleurs nous sommes toujours ici avec Lucie et Nathan pour parler de Saltburn et des nouveaux films de Sofia Coppola et de Kore-eda Hirokazu sortis pendant les vacances. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça me fait plaisir de vous revoir ici et on commence sans plus attendre par l'événement streaming de ces vacances de Noël. Tout le monde en parle, c'est Saltburn d'Emerald Fennell, c'est sur Prime Video et Nathan, tu voulais nous en parler.
Oui, absolument, merci. Donc tu l'as dit, Saltburn, c'est le second film réalisé par Emerald Fennell. Il est sorti en décembre en France sur la plateforme Prime Video. Et il a bien failli me passer sous le nez, puisque alors que l'annonce du projet avait d'abord attisé ma curiosité, j'ai failli me faire avoir par la promo, comme à leur habitude, bien trop discrète déployée par Amazon. Et c'est grâce à un ami que j'en profite pour saluer et remercier ici, et effectivement au retentissement qu'a le film, que Saltburn a été fort heureusement rappelé à ma mémoire. Alors, Emerald Fennell, pour ceux du fond qui ont du mal à suivre, c'est qui? Eh bien, c'est avant tout une actrice qu'on a eu le plaisir de voir, par exemple, en Camilla Rhodes, dans la quatrième et meilleure, c'est toujours bon de le rappeler, saison de The Crown, ou encore plus récemment dans un second rôle dans Barbie. Mais Emerald Fennell, c'est également une réalisatrice. Elle est déjà passée derrière la caméra en 2020 avec son premier film, l'étonnant Promising Young Woman, ou Une jeune femme pleine de promesses au Québec, qui suivait les aventures d'une sériale non pas killeuse, mais plutôt sériale donneuse de leçons, en quête de vengeance, qui piégeait de potentiels agresseurs sexuels et violeurs. Film que personne n'attendait vraiment au tournant et qui pourtant a complètement su trouver son public grâce à sa personnalité, son caractère, son ton hyper original et son style particulièrement dynamique entre néon et standard des années 70-80. Emerald Fennell avait même glané plusieurs nominations aux Oscars et carrément raflé la mise dans la catégorie du meilleur scénario, fait rare pour un premier film, et elle se distinguait donc indubitablement comme une jeune femme en effet résolument prometteuse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Saltburn, elle continue sur sa lancée dans la droite ligne de son premier succès, avec des thèmes provocateurs, un scénario assez tordu, une esthétique léchée, bref, une formule miracle, ou en tout cas pleine de promesses. Le film, sorti en France sur Prime Video le 22 décembre dernier, donc, et parenthèse d'ailleurs à ce sujet, je ne suis pas vraiment un hater des plateformes de streaming, au contraire, je trouve qu'elles offrent des possibilités énormes et inconcevables pour plein de grands studios hollywoodiens, à pléthore de très bons réalisateurs, d'ailleurs pour le meilleur, comme Scorsese pour ne citer que lui, comme pour le pire, coucou Ridley, nous ont déjà proposé des films franchement importants, mais là, c'est vrai que quand on voit un film comme Saltburn, et comme beaucoup d'autres films qui sont sortis sur ce genre de plateforme, ça fait de la peine et c'est effectivement dommage de ne pas pouvoir voir ce genre de film sur un grand écran de cinéma, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Bref, le film donc suit le personnage d'Oliver Quick, c'est Barry Keoghan, sur lequel il faudra revenir plus tard, je te promets Barry, j'arrive, qui raconte en voix off à on ne sait trop qui son histoire. Nouvel étudiant à Oxford, d'origine modeste, il se lie rapidement d'amitié avec l'aristocrate Félix Catton, c'est le solaire Jacob Elordi. Et lorsque le père d'Oliver décède, Félix invite son ami à passer l'été avec lui dans sa résidence familiale, le manoir de Saltburn, qui donne son nom donc au film. avec sa famille, notamment interprétée par nuls autres que Rosamund Pike, Richard E. Grant ou encore Alison Oliver. Et c'est le pitch. Voilà, alors bon, rassurez-vous, il se passe un peu plus de choses que ça. On n'a pas droit juste à 2h07 de dilemme par rapport à cette invitation en mode ira, ira pas. Non, je vous rassure, Oliver va rapidement décider de bel et bien se rendre à Saltburn, mais il serait difficile d'en dire plus sur ce qui suit sans divulgâcher l'intrigue et ses rouages. Alors je vais simplement m'arrêter là pour ce qui est de l'accroche. Et donc, que vaut ce séjour estival dans le domaine de la famille Catton ? Bah, la première chose à souligner, car c'est quand même la première chose qui saute aux yeux au premier visionnage, c'est la beauté plastique du film. Quasiment chaque plan est vraiment digne d'un tableau, la colorimétrie est assez impressionnante, passant de tons pastels dans des paysages champêtres à la Call Me By Your Name, à des couleurs beaucoup plus franches, alternant entre les tons froids et chauds, notamment dans les scènes de nuit, qui sont toutes parfaitement maîtrisées. Et le film procure franchement, de ce point de vue, un plaisir esthétique complètement assumé, qui fait vraiment du bien avec un style assumé rétro, tantôt criard, tantôt très élégant, un sens du cadre en pleine maîtrise. Et ne serait-ce que les quelques premières minutes du film sont une espèce de collage aux airs de clip, de plans de Jacob Elordi qui, on peut se le dire, est plutôt photogénique. Et cette introduction sous forme de prologue et de mini-teasing, qui regroupe quelques-uns des plus beaux plans du film, est complètement hypnotique. Donc voilà, 3 minutes de film, et il m'a pas fallu plus que 4 ou 5 plans et la voix de Barry Keoghan, j'arrive Barry, juste 2 minutes, pour être d'ores et déjà sous le charme du ton du film. Car les plans les plus mémorables du film sont parmi les plus beaux de l'année, d'un point de vue en tout cas purement plastique et esthétique. Le plan sur la bouche d'Oliver sous l'eau, celui sur Félix drapé de lumière solaire, celui sur la silhouette d'Oliver qui se dessine dans l'entrée du labyrinthe du domaine la nuit. Bref, Emerald Fennell confirme qu'elle a une vraie patte, un style bien à elle et diablement efficace, reposant sur une dialectique qui contient en elle tout le spectre visuel du film, dialectique que j'appellerais celle du néon et du soleil. Alors j'avoue, dit comme ça, ça claque pas particulièrement, mais je vous promets que ça a plus de gueule quand j'explique. Donc j'explique, la lumière est fondamentale dans le film, et les sources lumineuses sont soit celles artificielles des commerces la nuit qui se meuvent sur le visage fermé d'Oliver, soit les rayons de soleil dans la lueur desquels se dessine la silhouette du personnage angélique de Félix dès le prologue. Et c'est toute la dualité du personnage principal, campé par Barry Keoghan, encore un tout petit instant Barry, j'arrive, toute la duplicité des autres protagonistes membres de la famille aussi, de Félix également, toute l'ambivalence de cette relation qui unit les deux garçons, tout se trouve ainsi illustré visuellement tout au long du film. La lumière moderne, celle de la rue, de la nuit, mais aussi de la débauche, constamment opposée à la lumière pure, chaleureuse, quasi divine. L'une illustre Oliver, l'autre Félix et sa famille. Mais ce qui est très fort dans Saltburn, et ça va nous offrir une transition toute trouvée vers le point du scénario, c'est qu'on hésite tout du long à trancher pour savoir laquelle de ces deux esthétiques opposées et complémentaires est associée à l'un ou à l'autre. Félix est certes auréolé de rayons de soleil lorsqu'il est assis devant la fenêtre de sa chambre, et le manoir et ses alentours sont constamment enveloppés dans une lumière naturelle douce et chaleureuse, mais les lumières artificielles qui dansent sur le visage d'Oliver sont aussi celles des soirées orgiaques de la famille de Félix, débonnaire sinon débauché, et l'auréole de ce dernier, Félix, tient moins à son authentique divinité qu'à la fascination qu'Oliver reconnaît lui vouer, lui à travers le regard duquel nous sont donnés les plans les plus esthétisés sur Félix. Car Saltburn est un jeu de dupes qui fonctionne comme un pendule. Nous balançons constamment d'une extrême à l'autre. Pendant le premier segment du film, Oliver apparaît comme narrateur fiable et personnage principal auquel on s'attache et à travers le point de vue duquel le spectateur suit les événements du film. Et c'est la famille de Félix qui paraît non seulement dysfonctionnelle, mais même mal intentionnée, vicieuse, malsaine. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Saltburn, etc. Mais peu à peu, Oliver se révèle lui-même plus calculateur, plus sûr de lui, il trouve ses marques dans ce nouveau milieu plus vite qu'on aurait pu le penser, et le film en ce sens est remarquablement écrit, la duplicité de chaque personnage semble toujours pouvoir être exposée au grand jour, ce qui est également permis, et oui, Barry, ça va être ton moment, par le jeu des acteurs. Alors, donc, Barry Keoghan, l'acteur irlandais qu'on avait vu notamment dans Dunkerque, puis entreaperçu en Joker dans le Batman de Matt Reeves, laissant augurer un avenir radieux pour le personnage, avant qu'il n'explose définitivement dans le très moyen outre mesure les Banshees d'Inisherin. Je sais, je vais pas me faire des amis sur cette opinion-là, mais c'est trop tard, c'est dit. Rôle tout en subtilité qui lui avait permis de décrocher un BAFTA et une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Barry Keoghan, donc, à qui cette chronique est une déclaration d'amour, s'illustre à nouveau dans Saltburn comme la nouvelle coqueluche d'Hollywood et, accessoirement, de mon cœur. Sa subtilité dans le double jeu est telle que, après nous avoir fait hésiter à lui accorder ou non notre confiance pendant plus de 2 heures de film, au moment du dénouement qui nous révèle si on a eu raison ou pas de se fier à sa bonne foi, son interprétation en clair-obscur, à l'image de l'esthétique du film, combinée à l'écriture très intelligente d'Emerald Fennell et au montage efficace sans trop en montrer pour autant, eh bien il transfigure un final qui aurait pu se révéler très prévisible en un paroxysme de tension qui, faute de twist complètement inattendu à proprement parler, remplit au moins sa mission de lever le voile sur une part des interrogations soulevées au cours du film, et ce avec brio. L'ultime plan séquence du film, qui a complètement fait le buzz au point de devenir une trend sur les réseaux sociaux, trend d'ailleurs qui illustre l'incompréhension de l'aristocratie américaine face au film, ce plan séquence donc comporte en lui tout ce qui a fait la réussite du film avant. Une satire acerbe de l'aristocratie sur fond d'arrivisme et de lutte sociale, la crudité visuelle du film, la précision esthétique de ses plans, l'audace de ses propositions scénaristiques, l'humour noir et grinçant de ses procédés de mise en scène en outre assez virtuose, et la présence et prestance remarquable de son acteur principal qui ne recule devant rien. Alors oui, si on devait se montrer critique, puisque ça y est, on est des critiques, on pourrait reprocher à Saltburn un certain formalisme qui primerait quand même un peu par rapport au fond, quelques facilités scénaristiques aussi, et un dénouement certes assez prévisible. On pourrait s'interroger aussi sur la présence de Rosamund Pike et sur sa nomination aux Golden Globes, alors que son personnage est un peu un des gâchis du film, à l'importance mineure et qui aurait sans doute pu peser un peu plus. Il en va de même d'ailleurs pour Carey Mulligan, qui a littéralement 30 secondes d'apparence à l'écran, mais c'est moins dérangeant, d'autant plus qu'il s'agit sans doute plus d'un clin d'œil à l'aventure Promising Young Woman. Et enfin, il est vrai que Saltburn colporte quand même avec lui énormément d'influence. Le film emprunte, je l'ai dit, à l'esthétique de Call Me By Your Name, mais il y a aussi sans doute beaucoup de talentueux Mr. Ripley dans cet Oliver Quick. On retrouve même presque une tonalité à la Été 85 par moment, même si pas sûr pour le coup qu'il s'agisse de l'inspiration première de la réalisatrice. Et puis, c'est vrai que ça y ressemble, mais plutôt dans un multivers où François Ozon serait un metteur en scène un peu plus inspiré et aurait été sous coke pendant tout le tournage du film. Bref, autant d'influences charriées par le film et dont la transparence peut apparaître comme un écueil, a fortiori dans la mesure où le film ne les surpasse ni ne les transcende jamais vraiment. Ce qui est à l'origine, je pense, des critiques plutôt négatives qu'il reçoit auprès de la presse française, qui semble souffler comme de concert tout ça pour ça. Mais en réalité, je trouve que Saltburn mérite malgré tout d'être défendu justement face à cet accueil assez frais de la critique et même dans une certaine mesure d'une part du public. Parce que Saltburn, c'est un projet tellement audacieux que je ferme les yeux sur tous ses défauts, car des défauts, il en a sans doute beaucoup, mais il est entouré d'une aura assez indescriptible, une espèce de magie opère, et ne reste qu'un thriller psychologique rondement mené, à l'attention pleinement maîtrisée, avec à la baguette une cinéaste non plus seulement pleine de promesses, mais qui confirme, avec son style diablement efficace, provocateur, combinant violence crue des images et légèreté de la bande-son, gravité des thèmes abordés et désinvolture des personnages, bref, une œuvre complexe, profonde autant que gratuite et légère, et qui marque aussi bien par la beauté plastique de ses images que la radicalité de son ton.
Merci beaucoup Nathan pour cette très belle chronique encore une fois. Saltburn, c'est donc sur Prime Video, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis.